dans cette réunion, puis après on va faire un chant, puis on passera directement à la parole. Seigneur, merci pour ta bonté.
Alléluia.
Merci, Père.
Alléluia, Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes, Seigneur. Oui, reconnaissant, Père, parce que tu nous as fait grâce, Père, de te connaître. Tu nous avais grâce,
oui, Seigneur, éternel, notre Dieu.
Seigneur, oui. De nous donner une vie nouvelle.
Amen.
Seigneur. On est vraiment reconnaissant. On veut te le montrer, on veut te le dire ce matin. Alléluia. On veut te dire merci pour tous les bienfaits que tu nous fais, Seigneur.
Alléluia.
Merci pour toutes choses, Seigneur, qu'on voit dans nos vies, Seigneur. Merci pour la santé que tu nous donnes,
amen.
Seigneur.
Amen.
Merci pour la grâce d'être debout, Seigneur. Merci
oui,
pour la
Seigneur,
grâce d'être
oui.
ensemble ce matin,
oui.
de te louer. Merci,
amen.
Seigneur.
Merci,
de tous nos cœurs, on te dit merci, Père.
Amen.
Merci
Alléluia.
Pour chacun de nous ce matin. Et je te demande dans le nom de Jésus, Père, que tu viennes, que tu nous visites, Père, que tu nous fais du bien, que tu nous parles, que tu nous reprends si nous avons besoin, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. On te dit, Seigneur, viens. Viens dans le nom de Jésus
merci,
et touche nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus.
Amen.
Gloire à toi, Jésus.
Alléluia, Seigneur, oui.
Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia.
Seigneur Dieu. Père, merci. On peut s'arrêter devant toi et en ce jour spécial, Seigneur, bien sûr, tu dis que les jours, on a des convictions différentes, mais c'est bon de s'arrêter devant toi.
Amen.
Tu as donné même aussi le sabbat pour l'homme, pour que nous puissions nous reposer, nous préparer pour l'éternité.
Oh,
amen.
Et nous rappeler qu'un jour, nous laisserons beaucoup de choses inachevées aussi.
Mais oui.
Merci de que nous puissions entrer dans ton repos par la foi. Mmh. Et merci pour chacun qui est là. Tu vas nous bénir, Seigneur. Et déjà, on est béni en ton Fils.
Mmh.
Et on veut te soumettre ce temps à ton bon esprit. On te remercie, Père. Comme le disait David, mon Dieu, tout bon. Je te remercie pour ta grande bonté et pour ta grande fidélité. On te demande ta bénédiction au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Merci, papa.
Oh,
la grâce.
Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce également. Et comme disait Pierre, il est bon pour nous d'être ici. Et c'est vrai, cette parole vraiment a résonné dans mon cœur. Il est bon pour nous d'être ici, réunis dans le nom de Jésus, celui qui nous a fait connaître et qui nous a révélé les choses cachées, qui nous a attiré les ténèbres à sa divine lumière et qui nous a porté dans le royaume céleste. Je te rends grâce et je bénis ton nom. Alléluia pour ceux que tu as sauvés parmi nous. Et merci pour cette dame qui est parmi nous ce matin, que ton Saint-Esprit puisse, Seigneur, la diriger, l'encourager, que l'amour de Christ puisse se révéler à son cœur. Je demande que vraiment le Saint-Esprit fasse la lumière dans son cœur, qu'elle passe un bon temps parmi nous. Je te recommande ce temps vraiment, Seigneur. Nous le portons au trône de ta grâce. Que tes bénédictions, ton Saint-Esprit, soient l'œuvre, comme tu as toujours promis, Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours. Tu es celui qui ne change pas. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et nous te bénissons, et nous sommes témoins de ta grande fidélité, tes compassions, ton amour envers nous. Louange et gloire à ton nom. Que ta parole puisse faire un effet dans nos cœurs ce matin. Elle puisse nous parler, nous reprendre, nous édifier, et bénis vraiment l'œuvre qu'il apportera. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Louange et gloire à toi, Seigneur.
Alléluia.
Alléluia.
Oui, Seigneur.
Merci, Jésus.
Au Père, comme le dit ce psaume, qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble, que c'est là où tu envoies la vie et la vie en abondance, ainsi que la bénédiction, Père. Qu'il en soit ainsi pour nous tous ici, Seigneur. Que cette parole puisse nous donner la vie, nous vivifie nos vies, Seigneur Père, afin que nous continuions à marcher dans tes voies et à œuvrer pour toi jusqu'à la fin de nos vies, ou bien jusqu'à ce que la trompette sonne, ô éternel notre Dieu. C'est vers toi que nous regardons, ô Père éternel. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être de plus en plus proche de toi au fur et à mesure, Père, que les années passent, Seigneur Père, afin que nous puissions mieux te connaître à travers ton Fils unique, le Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, ô Père, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Père.
Oui, Seigneur, merci pour ce jour, Seigneur, c'est cette journée que tu as faite, Seigneur, où nous allons te rendre gloire. Seigneur, merci pour tes bienfaits, Seigneur, ton amour envers chacun.
chacun de nous, Seigneur. Oui, et Seigneur, on veut donner gloire à ton nom ce matin, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Sauveur, et nous voulons vraiment te remercier pour toutes ces choses, Seigneur. Merci aussi pour Marie Solange, pour Patrice qui sont là, Seigneur. Je te demande de les bénir, Seigneur. Merci pour la communion fraternelle, mon Dieu. Merci aussi pour Rodolphe, enfin pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci, mon Dieu. Et nous allons être à l'écoute de ta parole et qu'elle puisse nous fortifier, Seigneur. Merci aussi pour Laurent qui va l'apporter. Que ton nom soit glorifié ce matin. Amen.
Amen, Seigneur. Oui.
Oh Jésus, toi qui es le don même, toi qui es venu gratuitement, sans rien réclamer, juste pour nous donner le chemin à suivre, pour nous aimer alors que nous ignorions ton amour, Seigneur.
Oh, merci.
Ce que nous réclamons, c'est vraiment chaque jour une révélation de ton amour.
Oui, Seigneur.
C'est cela, Seigneur, qui fait la vie. C'est cela qui nous donne, Seigneur, la véritable vie.
Oui, Seigneur.
Jésus, tu es celui qui veut nous aimer, qui est fidèle jour après jour. Et si nous ignorions ta présence, toi, tu te révèles et tu parles d'une manière ou d'une autre. Merci pour cette fidélité de chaque jour. Merci pour cet amour incomparable. Tu bénis cette matinée, ton serviteur, nos cœurs, afin que nous puissions être particulièrement touchés. Gloire, honneur à ton nom, Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur, tu es au milieu de nous ce matin. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu puisses ouvrir notre cœur, que nos oreilles entendent, écoute ce que tu as à nous dire, Seigneur. Donc, je veux dire vraiment. Bénis chacun, d'entre nous, et nous aussi Mimi, Seigneur, ce matin.
Amen.
Pour te ouvrir, Seigneur.
Oui.
Vraiment.
Alléluia.
Tu lui donnes de la force pour ouvrir son cœur, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tout ce que tu nous donnes chaque jour. Remplis-nous de toi ce matin, Seigneur, que nous puissions vraiment avoir un cœur vraiment ouvert, Seigneur, à ce que tu as à nous dire. Merci, notre Dieu.
Oui.
Amen. 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 Seigneur, merci, Père.
Amen. Amen.
Gloire
à toi, Seigneur.
Gloire à ton nom, Seigneur.
Yeah.
juste un mot pour moi. Tu as payé le prix pour enfin je sois libre. Oh, 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 Seigneur, je te chante pour ce que tu as.
Thank you.
Oui, oui, c'est Ascensio, le frère pasteur, qui disait souvent dans les réunions, on s'est fait du bien, on se fait du bien.
Ah oui, c'est vrai.
Et quand on bénit le Seigneur aussi, on se fait du bien.
Amen.
Oui, ça nous donne la paix, ça nous libère. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, on a demandé notre pain quotidien. Hein.
Ah oui.
Donc, on l'attend, voilà.
D'accord. Céleste. D'accord, d'accord. Okay. Merci Seigneur, voilà. Bon. Bon. Je vais parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé jusqu'à maintenant. C'est la première fois que je fais ce message, voilà, ou bien que j'ai eu à connaissance, en tout cas, de ce que je vais vous dire. C'est le principe des prémices ou des premiers-nés.
Ouais.
Voilà, le principe des prémices et ou des premiers-nés. Donc, il y a déjà j'avais déjà fait un message sur le principe des limites. C'était dans l'Ancien Testament avec Josué, mais aujourd'hui, je vais vous entretenir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, vous verrez quand même, puisque la Bible nous dit que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Voilà. Le principe des premiers-nés ou des prémices. Donc, nous allons revenir sur l'histoire de Abel et de Caïn dans Genèse, le chapitre 4. Le verset 3 au verset 5. Le verset 3 au verset 5, si quelqu'un trouve, on nous dit, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est vrai que dans ce verset, j'ai déjà écouté des prédications sur ça où les gens se posaient la question, pourquoi l'Éternel s'était-il comporté comme ça? Hein, que même des fois les gens disent, oh c'est injuste, ou bien que l'Éternel est à un parti pris pour ceux qui font des offrandes d'animaux, ainsi de suite. Mais si nous voyons bien dans la Bible, dans les offrandes qui sont données à Dieu, il y a des offrandes végétales, fleurs de farine, de l'huile, de la farine, des gâteaux, ainsi de suite, du bétail ou bien des animaux. Donc, le problème n'est pas là-bas. Donc, le problème est dans ce que Caïn a fait. Vous allez voir que lorsqu'on lit le texte dans l'original, c'est pas pareil en hébreu. Ouais. Voilà, parce que j'ai découvert cela parce que je fais des cours d'hébreu biblique depuis avril que je fais. Donc quand il y a certaines choses qui viennent. C'est-à-dire qu'on comprend mieux que le français ne peut pas traduire. D'accord? Que le français ne peut pas traduire exactement. Donc, lorsque l'on voit en hébreu, d'abord, il y a une explication de texte. Donc, Abel veut dire nuage, ével, nuage, vapeur ou esprit, ou souffle. Caïn veut dire possession.
Possession.
Voilà, Caïn, possession, voilà. Et il y a un mot, ou bien une phrase que le français dit, Abel apporta à l'Éternel ses premiers-nés, les premiers-nés de son petit bétail. En hébreu, on dit Beora, ou bien Beorut Chonu. Beorut Chonu, c'est un... C'est une, on parle de chaîne construite en hébreu. Au fait, c'est la meilleure partie, ou bien les premiers-nés de son petit troupeau. Chonu, chon, c'est troupeau, petit bétail. Beor, ou bien Beorut ou Beora, ça vient de Baka, ou de Beor d'abord. Baka veut dire premier-né. Offrande, meilleure partie. Ça veut dire également mûri, quelque chose de mûri, quelque chose de meilleur, une part, meilleure partie. Donc, nous voyons que Abel a réfléchi, à faire un choix, vous voyez, a pris le meilleur de ce qu'il a, le meilleur de lui-même, le meilleur, ou bien, parce que premier-né ne veut pas toujours dire vrai premier-né. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut le prendre aussi au figuré qu'il a apporté la meilleure partie, vous voyez, la meilleure partie de son troupeau, les meilleures parts, les bêtes sans défaut, vous voyez, les bêtes sans défaut, les bêtes grasses, les meilleurs, le meilleur possible. Donc, il a réfléchi, vous voyez, il a réfléchi, il a dit, qu'est-ce que je pourrais donner à l'Éternel Dieu? Donc, il a dit, je vais lui donner le meilleur de moi-même, la meilleure partie, les premiers-nés de mon troupeau, ainsi de suite. Alors que Caïn n'a pas trop réfléchi à ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas pensé, il n'a pas eu une réflexion par rapport à l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que notre comportement vis-à-vis de Dieu dépend de la connaissance, de la considération que nous avons pour lui. Caïn, on nous dit qu'il a apporté des fruits, n'importe lesquels, au fait. Il a ramassé des fruits comme ça, et puis il a dit, ok, tu veux une offrande, je vais te la donner. Prends. Vous voyez? C'est ça. Alors que Abel a réfléchi à une considération pour l'Éternel Dieu. Voilà. Voilà, ça va autre que ça. C'est pas une question d'animal, d'animaux, de végétaux. C'est pas ça du tout. Mais c'est la manière. Voilà. Parce que l'Éternel Dieu, quand même, est juste. On nous dit que son trône est bâti sur deux piliers, la bonté et l'équité, ou la justice. Donc, l'Éternel Dieu ne peut pas être injuste. Vous voyez, au grand jamais, sinon il ne sera plus Dieu. Vous voyez, d'accord, il ne sera plus Dieu. Donc, le mont Béor, ou Beirut Chonou, c'est-à-dire que c'est une phrase, hein, mais le français ne le traduit pas bien. C'est le premier né de son petit bétail. Et vient du mot Bacha, c'est la racine primaire, ça. Donc, c'est enfanté tôt, nouveau, ainsi de suite. C'est aussi donner le droit. D'accord? Voilà. Donc, il y a ce principe dans toute la Bible. Nous le voyons pour la première fois dans le livre de Genèse. Vous voyez quand, pas Genèse, mais plutôt Exode, où Exode 4, le verset 22 et 23, où l'Éternel Dieu a parlé d'Israël comme son premier-né. Comme son premier-né, vous voyez, en parlant de Pharaon, en parlant d'Israël à Pharaon. Si quelqu'un trouve comme ça, on aura...
22 jusqu'à quoi?
22 à 23, les autres 4.
Voilà. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né.
Voilà. C'est ça. Vas-y, vas-y.
Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né.
Voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc, il y a le premier-né ou bien les... Ça a une particularité au Seigneur. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un principe qu'on voit depuis la création, que à l'Éternel sont les meilleures parts. En tout cas, voilà. Si, parce que l'Éternel est un roi, il doit être honoré. On vient à, comment on dit, à un adage, non, qui dit à chaque honneur, ou bien à... Bon, j'ai oublié. Non. Ou bien, chaque roi, à chaque honneur, non, c'est pas ce qu'on dit. Ah non, vous ne connaissez pas cet adage. Bon, d'accord, passons. Voilà, donc, ce mot...
Comme rendez à César un petit peu, non?
Oui, voilà, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, voilà. Donc, ce mot, Béor ou Bakar, peut être pris au sens figuré, comme je le disais tout à l'heure, ça se rapproche du mont Mishbar, qui veut dire choisi, choisir ou bien élite, meilleur. Ça se rapproche aussi du mot Réchit. Vous voyez, quand la Bible dit par exemple Béréchit, au commencement, ça veut dire le commencement. Vous voyez, le Réchit, c'est la part, c'est le commencement, le Réchit. Ce mot Béor, on peut peut-être associer à ça. Donc nous le voyons avec Israël que l'Éternel l'a désigné comme son premier-né. Pourquoi? Parce que les Israélites, Dieu leur a donné la loi. Ces lois, ces vérités, lui a donné des commandements. Donc, c'est comme les premiers-nés des nations. Il les a comme retirés des nations, une meilleure part pour en faire une élite, pour en faire des enseignants. Il les a choisis. Vous voyez? C'est ça. C'est pourquoi il a dit à Pharaon que Israël est son premier-né. C'est le peuple qu'il a connu d'avant, c'est le peuple à qui il a donné ses lois, parce que jamais auparavant, aucune nation n'a reçu de Dieu ses lois. Dieu n'a jamais parlé, l'Éternel n'a jamais parlé à une nation, ainsi de suite. Donc Israël était désigné comme le premier-né de la création, son fils. Voilà, et c'est pour cela que l'Éternel Dieu a dit, si tu ne laisses pas partir mon premier-né, tes premiers-nés vont mourir. Selon les commentaires des exégètes juifs, il s'agit des premiers-nés, mais ça peut être aussi pris au sens figuré, c'est-à-dire l'élite d'Égypte qui a succombé lors du départ, lors de cette fameuse nuit.
Où, tu veux dire pas des enfants?
Okay. Oui, il y a aussi les premiers-nés, mais ça peut être aussi pris au figurant parlant de l'élite. La preuve, après cet épisode, l'Égypte était tombée et a été envahie par les Hyksos ou bien les autres ennemis qui étaient là, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, parce que l'élite a péri, les premiers-nés sont, ont péri. Parce que les premiers-nés sont, en quelque sorte, l'héritier légitime, celui qui va prendre la suite du patriarche, qui va enseigner les autres, qui va diriger les autres, qui va leur transmettre aussi la foi ou les enseignements du patriarche. On l'a vu même avec les deux enfants de Isaac, Jacob et Ésaü. Oui, Jacob et Ésaü. Vous avez vu que quand Isaac, quand Ésaü est venu après Jacob, son père lui a dit qu'il n'a plus de bénédiction. Parce que la bénédiction a été déjà donnée à Jacob qui a pris la place. Voilà. Mais ça devait être ainsi parce que Ésaü était un profane, c'est-à-dire il n'aimait pas l'Éternel Dieu. Vous voyez? Il n'était pas quelqu'un qui aimait Dieu. Alors que Jacob, on nous dit que Jacob restait dans la tente. Pour qu'est-ce qu'il faisait dans la tente? C'est pour étudier la parole de Dieu. Ouais, il était consacré véritablement à Dieu. Donc, Ésaü ne pouvait pas prendre la place du premier-né parce qu'il a perdu en négligeant cet héritage en disant « À quoi ça me sert d'être premier-né ?» Vous voyez, donc il a négligé, il a profané cela. D'accord? Donc, ce qui fait que Dieu l'a démis de cette fonction et l'a plutôt donné à son frère qui a montré plus d'empressement, qui a montré plus d'engagement ou de consécration avec l'Éternel Dieu. Ouais, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. D'accord?
Ça fait réfléchir, ça.
Voilà. Donc, nous voyons ce principe des premiers-nés avec le Seigneur Jésus. Nous voyons cela, vous avez vu, parce que beaucoup de gens disent, ah oui, la Bible a dit, mais nous lirons les versets. Je fais un peu court parce que le temps, hein, pour que, faut pas, je fais un peu court si, sinon c'est un enseignement qui peut prendre une heure et demie, hein, voilà. Donc, lisons dans Psaume 89, le verset 28, si quelqu'un trouve. Et puis, Psaume 89, le verset 28, ou bien Colossiens 1 également, le verset 15 et 18, si quelqu'un.
Et moi,
je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre.
Voilà, en parlant du Messie. Ouais, en parlant du Messie, donc l'Éternel a dit, a annoncé que son fils serait le premier né, le plus élevé des rois de la terre. D'accord? Voilà. Ou bien, quand il y a aussi un autre verset, je pense que c'est dans Ésaïe, non? Ou bien, qui dit que mon serviteur s'élèvera trois fois élevé. Donc, les gens se sont posés la question, pourquoi on dit trois fois élevé? Mais oui, Jésus, le Messie, est plus élevé qu'à Abraham, que Moïse, et que les anges. Trois fois, et que les anges. Donc, lisons dans Colossiens 1, le verset 15. Pourquoi Jésus est considéré comme le premier-né? C'est pas, comme disent certaines dénominations, c'est pas la première des créatures de l'Éternel Dieu, voilà, c'est pas ça. Oui, qui dit ça, qui dit ça, n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un titre que le Messie porte, puisque le Messie, avant de venir dans ce monde, existait depuis le commencement, puisque nous dit le verset, dans Agé par exemple, on nous dit que dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'autrefois, à l'éternité. Au jour de l'éternité, donc on le voit même dans le livre de Genèse, même dans le livre des autres, où l'Éternel dit qu'il envoie son ange, que son nom est en lui, et que cet ange ne pardonnera pas leur péché. Or, aucun ange ne peut pardonner un péché si ce n'est Dieu. D'accord? Voilà, il est Dieu lui-même. Jésus, avant de naître dans ce monde, il ne s'appelait pas Jésus. Il s'appelait l'ange de l'Éternel qui venait, qui même dans le buisson ardent, Moïse n'a pas vu Dieu. On nous dit l'ange de l'Éternel. Voilà. Donc, il faut faire bien attention à ce que l'Esprit de Dieu nous dit dans sa parole. Donc, Colossiens 1, le verset 15 a dit ceci. Quelqu'un trouve un... Colossiens 15 et 18.
Il est l'image du Dieu invisible.
Oui.
Le premier-né.
Voilà.
Toute la création.
Voilà, le premier-né.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre.
Oui.
Les visibles et les invisibles.
Voilà.
Dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui.
Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ça.
Je vais jusqu'au 18, alors oui.
Oui, c'est
ça. Il est avant toute chose.
Oui.
Et toute chose subsiste.
En lui, c'est ça.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
Voilà, c'est ça. Ouais, en tout le premier. Voilà, c'est le principe des premiers-nés ou des prémices qu'on voit toujours dans la vie. C'est la meilleure part. C'est ce que Dieu veut. Voilà, c'est pour lui. C'est pour lui toujours les premiers-nés, les premiers. Donc, c'est pour cela que je ne l'ai pas lu dans Ésaïe ou bien dans Lévitique. Hein. Dans Lévitique 27, le verset 26, l'Éternel a dit que les premiers-nés lui appartiennent d'office, et des hommes et des animaux.
Les ânes aussi.
Oui, les ânes, tous les animaux, les premiers-nés des animaux et des hommes lui appartiennent. C'est pour cela qu'il faut les racheter. C'est ça. D'accord? C'est comme si les premiers nés sont la force. En tout cas,
que ça veut dire, par exemple, racheter les premiers nés, ils ont besoin d'être rachetés?
Oui, parce qu'ils appartiennent à l'Éternel. Il faut les racheter de l'Éternel en offrant un sacrifice.
Ah oui.
Voilà, en offrant un sacrifice et une offrande à l'Éternel Dieu, parce qu'ils appartiennent d'office. Voilà, c'est ça. Il faut racheter les premiers nés. Donc, donc dans 1 Corinthiens 15, on nous parle de Jésus comme 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés.
C'est quel verset?
23.
1 Corinthiens 20 à 23. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Et comme tous meurent en Adam, même tous se suivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Il doit être premier en tout. C'est lui le prémisse. Ouais. Donc, nous le voyons également que l'Éternel Dieu avait dit aux Israélites aussi d'offrir la fête des prémisses par exemple, d'offrir les prémices de leur moisson, ainsi de suite. Donc, il y a ce principe qu'on voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ça traverse toute la Bible, et nous le voyons également dans, dans Marc 1, le verset 11. Marc 1, le verset 11. Marc 1, le verset 11. Et une voix se fit entendre des cieux, tu es mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Vous voyez, il est son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, parce que dans le premier-né, on met toujours toute son affection. C'est ce que Jacob avait dit de Ruben. On ne va pas lire dans Genèse 49, le verset 3. Il parlait de Ruben comme sa force, sa vigueur, qu'il a tout mis dans Ruben. Mais Ruben n'a pas su garder cet héritage de premier-né. Donc, il a été déchu de son droit de premier-né ou de prémisse, celui qui devait guider ses frères, les conduire vers, vers Dieu. Il n'a pas su ça. Il a commis l'impardonnable, l'impudicité. Donc, c'est pourquoi il a été déchu de cet héritage de premier-né ou de prémisse qui a été confié à Joseph et à ses enfants, et qui a été confié à Éphraïm après, parce que Dieu aussi a changé l'ordre des premiers-nés entre Éphraïm et Manassé, parce que l'Éternel Dieu, comme il dit, il voit quelque chose avant son début. Il a vu comment Éphraïm allait se comporter, puisque Éphraïm devait se disperser dans les nations. Voilà, c'était ça, ou bien le rôle que...
Oui, c'est là que son Jacob a, il a croisé les mains, non ?
Oui, oui, oui.
Il était, il ne voyait pas très bien, mais il avait l'intelligence spirituelle.
Oui, oui, c'est ça.
C'est et ça. Joseph a voulu lui... Non, non, papa, c'est pas comme ça. Celui qui est à droite, celui qui est à gauche, il a croisé les mains
pour venir... Pour bénir Éphraïm que Manassé. Voilà, c'est ça. Donc, Hébreux 1, le verset 6, on le voit aussi pour Jésus toujours. Hein. Hébreux 1, le verset 6. Ah non, je pense que je me suis trompé. Ah non, 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 c'est le bon, c'est le bon. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, c'est ça. C'est ça, en fait. Il y a ce principe qui est en Jésus, qui est le premier-né de, en tant que Jésus. En tant que Jésus, puisque la Bible nous dit qu'il est le second et le dernier Adam. Adam était le commencement. Adam, le premier Adam, Rishon, on dit cela en hébreu. Et Adam, second et le dernier, qui est le Seigneur Jésus. Il est un commencement, il est un Rishon. Il est un premier-né, il est le premier-né de la terre, le premier-né de tout ce que l'Éternel Dieu fait. D'accord ? Voilà. Nous pouvons voir aussi dans Romains 8, le verset 5, ou bien dans Apocalypse 1, le verset 5, si quelqu'un trouve. Apocalypse 1, le verset 5. Il y a aussi ce principe. Apocalypse 1, le verset 5. On parle de... des rachetés de la terre.
Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts.
Voilà,
le
c'est ça.
Des rois de la terre.
Voilà, c'est ça, le prince de la roi de la terre. Ça rejoint le psaume que nous venons de lire au début, psaume 89, le verset 28. Voilà, d'accord. Donc, nous voyons qu'il y a ce principe-là. On dit souvent que la vérité est établie sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc, nous avons vu ce principe dans l'Ancien Testament. Et nous le voyons également dans le Nouveau Testament avec Jésus, même avec l'Église. On le voit aussi avec l'Église, mais nous lirons ça tout à l'heure. Donc, le rôle du premier-né, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est de succéder au père en tant que chef de famille, donner la direction, diriger les autres, à continuer dans l'héritage que ce patriarche a reçu de l'Éternel Dieu. C'est ça le rôle du premier-né. C'est l'héritier par excellence qui doit diriger donc les autres frères. Donc on le voit avec Israël, donc on le voit dans Exode 4, on l'a lu tout à l'heure, le verset 22 à 23, on le voit confirmé dans Romains 9, le verset 3 à 4, où Paul, par le Saint-Esprit, a parlé que l'héritage leur appartienne, l'alliance appartient à Israël. Donc c'est le principe encore du premier-né qui est en jeu là-bas.
Oui.
D'accord, Romains 9, le verset 3 à 4. Donc on a parlé de Ruben. On le voit également avec l'Église, dans Jacques 1, le verset 18. Jacques 1, le verset 18, si quelqu'un trouve, ou dans Romains 11, le verset 16 également. Jacques 1, le verset 18. Oui, vas-y.
Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi.
Voilà, oui.
Si la racine est sainte, les branches le sont aussi.
Oui, en parlant que les chrétiens sont greffés sur l'olivier d'Israël. Voilà. Dans Jacques 1, le verset 18.
Le verset 18.
Oui. Jacques 1.
Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures.
Voilà, c'est ça. Donc, les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont considérés comme les prémices de ce monde-là, les prémices des nations que l'Éternel a rachetées de l'Église.
Une grande bénédiction, même double.
Oui, c'est ça.
Comme les premiers-nés.
Oui, comme les premiers. Nous sommes, en tant que nés de nouveau, nous sommes les nés de la création. C'est pour cela que le premier-né ne doit pas se laisser à tout, ne doit pas se laisser à se conduire comme le monde. Vous voyez? C'est ça aussi l'implication que ça entraîne, parce que le premier-né donne l'exemple. Donne l'image, parce que c'est sur lui que les autres vont se greffer. Donc, c'est sur lui que les autres...
On est au même niveau.
Mais oui, on est au même niveau. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les premiers-nés de la création. L'Éternel a racheté. La Bible nous dit que nous sommes comme des lettres écrites aux gens de ce monde. Et nous donnons l'exemple, vous voyez. Paul nous dit, je pense que aussi c'est dans Hébreu, que personne ne se conduise comme Ésaü, un profane comme Ésaü, c'est ça. Donc Ésaü qui a abandonné son droit d'aînesse, vous voyez. Donc le premier ne doit pas se conduire comme, ne doit pas se conduire de n'importe quelle manière. Il a dit aussi à propos d'Israël, parce que l'Éternel Dieu a dit d'Israël qu'ils sont quoi, un peuple de prêtres, tous. Un peuple de prêtres. Pourquoi? Parce que c'est à Israël que Dieu a donné le rôle d'aller enseigner les autres peuples. Mais ils n'ont pas, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ne sont pas allés. Ils ne sont pas allés. Donc, le Messie est venu. Il a donné sa parole. Il a expliqué la parole de Dieu. Il a racheté également d'autres qu'il a greffé de nouveau à Israël comme étant aussi les prémices des nations. D'accord? Voilà, donc c'est le principe des prémices. Oui, c'est vrai. Donc nous devons, quelles sont les implications maintenant de ce principe dans nos vies ou dans la vie de la communauté, dans la vie de l'Église, ainsi de suite, parce que c'est bien beau d'être premier-né, mais nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Toujours avec Dieu, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Nous sommes les premiers-nés. Nous héritons des arts de l'esprit ou bien des prémices de l'esprit, comme a dit Paul. Nous héritons les prémices de l'esprit, mais également, il nous est demandé de quoi? Va et ne pêche plus. Marche devant moi et sois intègre. Obéis, marche dans l'obéissance. Marche sur le chemin étroit. Donc, en tant que prémisse, nous devons donner l'exemple au monde, mais nous devons aussi donner la meilleure part à Dieu dans tout. Dans tout ce que nous faisons, voyez, nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence, par exemple. Voyez, nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec un frein en main, en mettant le frein. Non, voyez, en faisant son semblant. Donc, nous devons tout donner à Dieu, la meilleure part. Même lorsque nous louons Dieu. Nous allons voir quelques versets, puis on va terminer par par là. Il y a un verset dans les psaumes contradictoires. Psaume 19, le verset 1. On va commencer par là. Psaume 19, le verset 1. On parle de « au chef des centres ». Mais c'est que, je pense, c'est mal traduit, en fait. C'est mal traduit. Pourquoi je dis que c'est mal traduit? Parce que « chantre » veut dire « nachar » en hébreu. « Nachar » veut dire « être brillant ». Être brillant.
Brillant.
Oui, être brillant.
Brillant.
Brillant, 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 brillant. Excellent, excellent. Pas brillant, 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 brillant.
Chantre.
En hébreu, veut dire brillant, être brillant.
Ah oui, ok.
D'accord? Voilà. Et puis, c'est conjugué en mode piel. Piel, c'est des modes de conjugaison en hébreu. C'est un intensif. Quand on dit mode piel, par exemple, on dit, par exemple, il a brisé, par exemple, bien, il brisa. Par exemple, si c'est en mode piel, cela veut dire réduit complètement en miettes, vous voyez?
Anéanti.
Réduit complètement en miettes, c'est ça. Donc, quand on l'applique au mot exceller, être brillant, cela veut dire que même lorsqu'on conduit la louange de Dieu, on loue. On doit être brillant, on doit exceller. Vous voyez, c'est ça, être les premiers. Les implications que cela nous doit nous amener à faire dans notre vie ou bien, d'accord.
Hein?
D'accord. Lisons dans Luc 10, le verset 42. Lorsqu'on chante, lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, on doit exceller, on doit briller, on doit se donner. C'est au chef des chants. Psaume 1, le verset. Psaume 19, le verset 1. On le voit dans tous les psaumes. On dit au chef des chants avec instrument sur guitim, ainsi de suite. Luc 10, le verset 24. S'il vous plaît. Luc 10, le verset 24.
Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
Ah bon, c'est ça?
Ben 10, 24, oui, c'est ça.
Ah, 42 plutôt. J'ai traversé.
Tu as versé, oui.
C'est 10, 42.
Oui, oui, 10, 42.
Marie, hein?
Hein?
C'est Marie.
Le démon. Oui, oui, oui.
Ah non,
une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point.
Voilà. Ah, oui. Marie a choisi la bonne part. Mmh. Voilà. Nous aussi, en tant que prémisse, en tant que chrétien, nous devons donner la meilleure part à Dieu. Choisir la bonne part dans la méditation, dans la prière. Mmh. Il ne faudrait pas que nous donnions simplement notre superflu à Dieu. Vous voyez, il faut prendre le temps pour prier, pour discuter avec Dieu, pour méditer. Il ne faut pas faire ça comme un devoir religieux. C'est les religieux qui se comportent comme ça. Allez, vite fait, on fait comme ça, voilà, on fait la prière, on fait la cérémonie, vite fait, allez. Hop, on a fait, on est satisfait, on a satisfait notre conscience et puis c'est bon. Voilà, ça c'est la religion, ça. La vraie relation avec Dieu, avec Jésus, non. On prend le temps avec lui, dans la prière, vous voyez. Comme Marie ici a choisi la bonne part. Elle s'était assise au pied du Seigneur et l'écoutait. Directement, ça venait comme ça, dans ses oreilles.
C'est comme tu as dit au début, quand tu as parlé de Caïn.
Oui, c'est ça.
Et Abel, il a pensé à ça. Il a
c'est ça.
Réfléchi, il a choisi le
voilà.
meilleur.
C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pour cela que son offrande a été agréée par celui de Caïn, parce que Caïn a choisi n'importe quoi. Ouais. C'est la religion, quoi. Ouais, on choisit n'importe comment. Il a ramassé, mais
il y a quand
peut-être
même
qu'il y avait.
Un symbole de Christ aussi, ici.
Oui, aussi. De l'offrande, voilà, c'est ça. De l'agneau. C'est ça.
L'agneau immolé.
Dans Ecclésiaste 1, le verset 19. Voyez. Mais notre jeunesse. Si l'Éternel nous donne la grâce de naître de nouveau pendant que nous sommes encore jeunes, c'est de lui donner notre jeunesse. C'est la meilleure part de l'être humain. C'est sa jeunesse. Parce qu'il est dans la vigueur, il est dans la force de l'âge, il peut aller en mission, il peut aller évangéliser, il peut chanter, il peut apprendre des instruments, il peut faire beaucoup de choses. Vous voyez, que lorsqu'on est
on devient tamalou après.
Ah, c'est ça. C'est ça.
Lorsqu'on devient tamalou, qu'on a mal aux genoux.
Tamalou.
Tamalou.
Tamalou. On ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus marcher. On a mal aux genoux. On dit, ah non, ça, je ne peux pas aller voir ce frère, cette sœur. Je ne peux pas y aller parce que j'ai mal aux genoux, ainsi de suite. Alors que quand on est jeune, on a l'assurance d'un jeune lion, voyez. On affronte tout.
La vigueur
aussi. On a la vigueur, ainsi de suite, voilà.
Force.
On n'est pas malade, voilà. Donc, c'est pourquoi l'Ecclésiaste a dit dans Ecclésiaste 1, le verset 11 plutôt, non? Le verset 9, 11.
Exode 1.
Non, Ecclésiaste 11, le verset 9.
Ah, Ecclésiaste
11. 11 plutôt.
Oui, 12, 1, dans beaucoup de Bibles.
Oui, dans 12 ans.
Ecclésiaste 11, verset
9.
Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon le regard de tes yeux. Mais... sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas, éloignement de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément.
Voilà. C'est quelle version que tu as là?
C'est la version Thompson.
Je crois que c'est Goy.
C'est la Bible de Thompson.
C'est un peu différent.
C'est
un peu différent. Oui, dans l'essence. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie. Ouais. Donc, Dieu veut notre meilleure part, c'est la jeunesse, c'est notre jeunesse. C'est lorsque nous sommes encore en vigueur, nous devons donner cela à l'Éternel Dieu. D'accord? Donc, regardons également dans Ésaïe 38, le verset 18 à 19. Si quelqu'un trouve Ésaïe, je termine bientôt. Ésaïe 38, 18 à 19. Si quelqu'un trouve.
18 à 19.
Tu l'as changé ou pas?
Oui, 38, 18, 19, tu lis toi, Véron?
Bah oui, n'importe. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue.
Voilà. Donc, la meilleure part que nous devons donner à Dieu, c'est lorsque nous sommes vivants. C'est pas après la mort. Après la mort, non. Ouais. La meilleure part que nous devons donner à Dieu, c'est lorsque nous sommes vivants. Dieu est un Dieu de vie. Il n'est pas un Dieu de mort. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vie. Puisqu'il appelle Abraham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que Abraham, Isaac et Jacob sont encore vivants pour lui. Ce que vous voyez, c'est ça, en fait. Et si nous voyons la définition que Paul a donnée de l'Église, c'est pas les bâtiments, c'est les croyants vivants et les croyants morts. C'est ça, l'Église, hein? D'accord? Donc, voilà, ils sont encore vivants pour Dieu, puisque Jésus a dit que celui qui croit en lui ne mourra jamais.
Ouais,
il est encore vivant en lui. Il dort. Voilà, ils sont encore vivants en lui. Lisons dans 2 Corinthiens 8, le verset 3 à 5. S'il vous plaît.
8, hein?
Mmh. Oui, 3, 3 à 5.
2
Corinthiens 8.
Quel est le verset?
3, 8. Moi je lis Marc 12, 42 à 44. On nous dit, assis vis-à-vis du trône, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône, car tous ont mis de leur superflu. Elle a mis de tout son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà. Mais nous devons donner aussi la meilleure part à Dieu dans nos offrandes, dans tout ce que nous offrons à Dieu. Nous allons viser l'excellence. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Or, les religieux donnent de leur superflu. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a puni, le Saint-Esprit a puni Ananias et Saphira.
Ah oui, oui.
Vous voyez? Parce que ils n'ont pas donné la meilleure part à Dieu. Ils ont retenu, ils ont dit, ah, on va faire. Bon, Dieu, les apôtres ne voient pas. Allez, on fait ça, on met ça dans le trou. Et puis on donne comme tout le monde donne. Nous aussi, on va donner. Comme ça, nous serons vus comme des gens bien. Donnons le meilleur toujours à Dieu. Donnons la meilleure part dans tout ce que nous faisons. Tout. Donc, la meilleure part aussi, c'est de vivre en progressant dans la sanctification. Puisque la Bible dit que Dieu est saint.
Ouais.
Que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc, la meilleure part que nous devons donner à Dieu, c'est en progressant aussi dans la sanctification. En menant une vie sans péché. Donc, 2 Corinthiens 8, le verset 3 à 5, alors, qui peut nous lire cela?
8, 3, 5. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu.
Voilà, en parlant des Thessaloniciens qui se sont eux-mêmes donnés, vous voyez, la meilleure part qu'ils ont eue, c'est de se donner totalement à Dieu avant de donner de leur possession. Vous voyez. Dieu n'a pas besoin du salaire de la prostituée ou du chien, comme il dit, n'a pas besoin. Voilà. C'est se donner d'abord à Dieu et après on donne ce que nous avons. Mais dans toutes ces choses, nous devons toujours viser la meilleure partie à donner à Dieu. Même dans notre vie également, nous devons tout ce que nous faisons là, nous devons donner à cause de ce principe des prémices ou le principe des premiers-nés. D'accord? Voilà le principe des prémices. Prémices, en hébreu, veut dire bikout. Bikout, c'est le même mot. Hein, vous savez, en hébreu, il y a bikouor. Ça veut dire bikouor. Parce que en hébreu, il y a la racine et les mots qui... C'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Il y a la racine et le tronc et les branches après. Le tronc, c'est béor. Voilà, c'est ça. On peut avoir beaucoup de mots. Donc, bikouor, c'est prémisse. Béor, c'est premier-né.
Béor, c'est la même parole que le... C'était pas un dieu de Béor aussi, non?
Non, non, Béor, ça ne s'écrit pas de la... Balpéor. Ah, c'est pas la même chose. Béor, non, non.
Oui, mais...
C'est pas la même chose. Donc, voilà. Béor. Romains 12, le verset 1 aussi nous le dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et de ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que la Bible nous dit. Ouais. Donc ce principe des premiers-nés ou des premiers nous amène vraiment à désirer d'abord, comme Abel ici, à désirer donner le meilleur. Ouais. Parce que l'Éternel Dieu lit d'abord dans le cœur. Son jugement ne se fonde pas sur sur l'apparence. Mais son jugement se fonde sur le cœur et sur l'apparence aussi. Parce que ce que la personne a au cœur se traduit également à l'extérieur. C'est ce que Abel a fait. Or, Caïn, lui, non, il a fait n'importe quoi et puis il a donné. Ok, Dieu, tu veux des offrandes, je vais t'en donner. Même, je ne sais pas, peut-être que je vais exagérer un peu, peut-être qu'il a aussi ramassé même les fruits pourris un peu mal. Des fruits qui ne sont mal formés même, et puis il a donné, ok, à Dieu, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est ça, donnons-nous vraiment à l'Éternel Dieu ce que nous avons de meilleur. C'est notre vie, c'est notre jeunesse, c'est nos offrandes. C'est prendre le temps avec l'Éternel Dieu pour méditer. Quelqu'un dit, si nous prenons le temps avec Dieu, nous n'en perdrons pas avec le diable.
Là, c'est clair, ouais. Excuse-moi, car c'était le premier-né physiquement.
Mais oui, c'était physiquement le premier-né. Ouais, mais il n'a pas été à la hauteur.
Voilà, ouais.
Ouais. En plus, pas jalousie, parce que son Dieu n'a pas agréé son offrande. Voilà, il tue son frère, pas jalousie. Après aussi, il se plaint, vous voyez, il dit, Dieu lui a dit, écoute, en plus il a été averti, hein, mais malgré cela, il n'a pas écouté Dieu, il pouvait se racheter quand même, voilà. Ou bien, Seigneur, ok, j'ai compris, je me repens, ok, je vais t'offrir le meilleur de moi-même,
ouais,
et de mes offrandes, voilà, ainsi de suite. Mais non, il s'est entêté. Donc, nous allons conclure, en lisant deux versets dans Luc 1, le verset 27, et dans Matthieu 19, le verset 21, pour conclure. Luc 1, que nous connaissons tous, c'est un verset que nous connaissons.
Le verset quel?
27.
Luc 1, le verset 17, si quelqu'un
tourne. 17 ou 27?
27 plutôt, excusez-moi. Luc 1, le verset 27. Et Matthieu 6, le verset 19 à 21.
Tu le
c'est le sermon.
Ah, 27.
Ah, 27.
C'est bon, quelqu'un a trouvé. Quelqu'un a trouvé? Luc 1, le verset 27. Véro?
Oui, mais si tu veux. Ouais. Alors, je suppose, attends, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge sur
non, non, un non, homme non. de la maison. Luc 1, le verset 27, non.
C'est ça, c'est ça.
Ah bon?
Oui, ouais. C'est pour ça.
Vous êtes sûr? Ah non, c'est Luc 10 alors, Luc 10. Oh, tant pour moi.
Luc 10?
Oui, ça doit être 10. C'est parce quoi j'ai
alors,
mis.
Luc 17 ou 10?
10, 27.
10, 27.
Oui, c'est
ça. Le Seigneur ton Dieu.
Voilà, voilà, voilà.
Voilà. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et
voilà.
Comme toi-même.
Voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et dans Matthieu 6, le verset 19 à 21, on dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rue détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la roue ne détruisent, où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Donc, Dieu nous a donné la grâce, la vie de le connaître, de connaître son Messie. C'est maintenant et pas après. Il est vrai que les religions investissent pour la mort, c'est-à-dire on transforme la personne en saint, on fait ceci, on fait des cérémonies pour l'accompagner, pour que Dieu ait pitié de lui, ainsi de suite. Non, c'est trop tard. L'Éternel Dieu est un Dieu de vie. Il veut le meilleur maintenant. Quand il nous appelle, dès notre jeunesse, il veut le meilleur. On ne va pas dire, oh non, je vais attendre. Je vais faire tout ce que je veux faire. Après, quand je serai vieux, je vais me mettre au service de Dieu. Là, non, c'est pas ça. C'est maître, il veut la meilleure part. Voilà, parce qu'il nous a sortis comme des prémices, comme des premiers nés de cette création. Et en retour, nous devons lui donner la meilleure partie de nous-mêmes, guider les autres, être un exemple pour les autres. Voilà, enfin d'amener les autres aussi vers lui, comme font les premiers nés dans l'ancien temps. Ouais, comme font les premiers nés. Donc voilà. Voilà, si vous avez voulu ajouter quelque chose, je ne sais pas, que le Seigneur nous bénisse et nous garde.
On est tous, on voit l'équité aussi là, du royaume de Dieu, on a tous été élevés, et cette place de premier-né des prémices, donc il y a plus, ça enlève beaucoup de différences, et puis hommes et femmes aussi. Il y a un verset qui me plaît dans 13, Hébreux 13, c'est qu'on s'est approché aussi de Hébreux 13, 22 et 23. au moment où ça dit, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de l'assemblée des premiers-nés,
c'est ça,
inscrits dans
c'est
les
ça, c'est ça,
oui, oui, aussi oui. L'assemblée des
premiers-nés, voilà. Même il y a un verset dans l'Apocalypse que je n'ai pas lu, qui parle des 144 000 personnes comme les premiers-nés qui ont été rachetés. Vous voyez, c'est ça. Comme des prémices, voilà. Aussi. Oui, c'est vrai que nous sommes approchés des premiers-nés de l'Église qui ont été rachetés de la terre, oui. Hébreux 13, oui.
Oui, il y en a qui usent ce verset pour dire qu'on doit avoir aussi que le Seigneur accordera un réveil avec une double bénédiction à la fin des temps. Il y en a qui servent de ce verset pour parler d'un réveil mondial à la fin des temps. Enfin, il y a des convictions différentes là-dessus, mais le fait qu'on soit approché des premiers-nés, c'est aussi intéressant. Et... Merci Laurent pour toutes les choses particulières. En fait, mais on pourrait regarder aussi avant tout, pour finir, la parole change pour aussi être brillant. Ça, c'est beau aussi.
Oui, oui.
Et la jeunesse aussi.
Ouais. Que Jésus était appelé aussi astro-brillant.
On devient.
Après, c'est trop tard.
Tamalou. Mais selon, ne vous inquiétez pas.
Hein.
Non,
je
ne
suis pas
contre Tamalou. Non, parce qu'elle relève l'exemple de ne pas avoir donné ça à Jésus.
Il en parle, je parle au chapitre 9.
Seigneur,
il dit il y a un fils aux élevés. On l'appelle
la vie éternelle.
Qui parle du premier, il est là. On appellera Père éternel, Prince de la paix.
Prince de la paix, oui.
Adorer dans la bonne fin. Je crois pas qu'il parle du premier, non ? Dans Isaïe 9, non ?
Dieu fait tout en son temps.
Car un fils vous est donné, voilà. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Son règne n'aura point de
fin. Oui, c'est pas la peine, après tu.
Les Colossiens, il est.
Mais c'est sûr, quand on y pense, c'est dommage, mais. Il y a pas à mettre une condamnation, je pense, à ceux qui se convertissent. Je me rappelle quelqu'un qui avait fait. Il avait pris deux petites bougies. Bon, c'est sûr, quand tu es jeune, tu te convertis jeune, tu peux brûler tout ça. Après, tu restes peu, mais enfin, tu peux. Voilà, on peut être brillant aussi. Et puis,
Alors, on va essayer d'être premier-né malgré l'âge.
Mais dans le royaume des cieux, les derniers sont les premiers.
Mais oui, ça, c'est vrai. Oui, non, non, c'est pas.
Les mathématiques, c'est
comme... Ce qui est important, c'est comme disait Nicodème.
Tu salues bien ta famille.
Dieu nous fait grâce à tout moment là. Dieu nous fait grâce à tout moment.